Tout Femme, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM
97.1
avec Véronique
et Valérie.
Bonjour, nous allons aujourd'hui dans Tout Feu Tout Femme parler d'un sujet qui nous concerne tous et sur lequel il serait bon que nos politiques se penchent. C'est le sujet de la drogue. Exceptionnellement, nous aurons deux émissions sur le sujet, l'une avec notre invité de ce jour qui a écrit un livre et la seconde avec un organisme berjalien qui aide les personnes touchées par diverses addictions à essayer de sortir de ce fléau. Alors en effet, pour certains, les frères, sœurs, enfants, parents sont touchés par ce fléau. Et j'ai lu donc dernièrement un livre qui m'a bouleversée. Ce livre, c'est 24 heures héros, aux éditions Fièvre Jaune, qui décrit la dure vie quotidienne d'un couple de toxicos dans la ville de Charleroi, en Belgique. Alors ce livre, il est sans tabou, sans clichés, sont juste des moments cruels de vérité. Ce livre a été écrit par Safie Ressiaf et Philippe Dilewski, qui habitent tous deux à Charleroi, en Belgique. Saphir est éducateur spécialisé et travaille au sein de la cellule SDF de Charleroi et de son école de Muay Thai. Et il anime des ateliers de gestion de la violence et intervient aussi comme écrivain public auprès d'une population précarisée. Et puis Philippe, que nous recevons aujourd'hui, a une formation, lui, de psychologue clinicien. Alors il a dirigé un cabinet de recrutement pendant 15 ans, puis il est devenu détective privé spécialisé dans la recherche des personnes disparues et il partage aujourd'hui son temps entre l'écriture et l'animation de formations en négociation. Il est déjà l'auteur de plusieurs livres. Alors pourquoi, vous me direz, pourquoi est-ce que vous allez chercher une réponse en Belgique à une question française ? Ben oui, ben justement. Justement parce que cette question, elle est mondiale et que personne à ce jour ne l'a résolue. Et surtout que Philippe et Saphir, tout comme moi et probablement beaucoup d'autres personnes, se sont posées et se posent beaucoup de questions sur la manière dont on doit aborder ce problème majeur de notre société. Alors, comment voit-on les choses en Belgique ? Peut-être pourrons-nous en tirer des leçons. Philippe, bonjour.
Bonjour Valérie.
Vous allez bien ?
Jusque-là, je vais fort bien, oui.
Parfait. Alors merci de répondre à nos questions et puis bienvenue sur Couleur FM 97.1, bienvenue à la Belgique.
Merci pour l'accueil.
Ah ouais, normal. Alors Philippe, déjà bravo pour ce livre poignant qui délivre à la fois un message de détresse de la société mais aussi un grand message d'amour et d'espoir. Et ma première question, ce sera qu'est-ce qui fait que dans votre parcours, qui est assez loin de ce milieu, vous soyez arrivé à écrire un tel livre et à aller sur le terrain voir ce qui se passait réellement ?
Bon, alors, c'est clair que c'est pas mon monde d'origine. J'ai plutôt un parcours d'entreprise et une parenthèse dans la recherche de personnes disparues. Mais mon ami et partenaire, Saphir, lui, travaille dans le milieu depuis une dizaine d'années. On s'est rencontrés il y a plus de 20 ans dans le milieu du sport. Et donc, on est devenus amis. Et puis, je lui avais parlé de mon projet de lancer une maison d'édition et qui aurait comme thème de raconter des histoires extraordinaires qui arrivent à des gens ordinaires. Ça, il n'a pas mis deux minutes avant de me proposer d'aller faire une visite en squat à 300 mètres d'ici. Et après cette visite, le sujet du premier livre de la maison d'édition était tout trouvé parce que c'est des gens qui habitent à côté de chez nous et qui vivent une vie extraordinaire, c'est pas le mot, sidérant.
Sidérant, ouais, ça c'est clair. Mais bon, c'est vrai que quand les gens vont lire le livre, ils découvriront ce terrible fléau. Alors, la Belgique, est-ce qu'elle est plus touchée que la France, hein ?
Elle est touchée de la même façon, c'est-à-dire dans les villes de taille moyenne et les grandes villes, c'est identique. La seule différence, c'est que chez vous, l'héroïne progresse dans les campagnes et les petites villes.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Chez nous, il n'y a pas cette notion, j'allais dire, de petite ville ou de grande ville. C'est malheureusement aussi dans les villages.
Oui, c'est récent, mais c'est le cas.
La drogue, c'est un fléau partout dans le monde. Comment est-ce qu'elle est combattue en Belgique ? Est-ce qu'il y a une vraie mise en place de systèmes pour essayer de combattre ce fléau ? Ou bien c'est un peu comme partout, on bidouille, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a ?
Mais les pouvoirs publics, je crois, la pression qu'on en a et les contacts qu'on a eus récemment nous montrent que, oui, les politiques sont préoccupées par le sujet. Mais les politiques, par définition, tiennent compte de l'opinion publique et l'opinion publique est plutôt demandeuse de répression, de punition et d'exclusion. Et comme ce sont des trucs qui marchent pas du tout, on fait beaucoup de choses qui marchent pas.
De contrat. On pédale dans la semoule, comme on dit chez nous.
Oui, oui, oui. Mais il y a plein de bonnes volontés, il y a plein d'organisations, il y a plein d'associations, d'organismes, et qui font vraiment un maximum. Mais les lois ne permettent pas certaines choses, et l'opinion publique ne serait pas d'accord de faire ce qui pourrait peut-être marcher.
Qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait marcher ?
Pour une partie, la drogue tue les gens parce qu'elle est le fruit d'organisations mafieuses. Ben, on peut faire le parallèle avec la prohibition dans les années 20 aux États-Unis. Ben, les organisations qui vendaient de l'alcool se souciaient peu de la qualité du produit, donc des consommateurs mouraient. Ben, avec les drogues, c'est pareil. Elles sont produites et distribuées par des organisations criminelles qui se préoccupent pas de la qualité du produit, ce qui fait que les consommateurs utilisent des produits de mauvaise qualité et ça les tue.
Comment essayer de bah là c'est on peut rien faire sur ça puisque de toute façon selon les mafieux qui s'amusent à faire ce genre de choses. Est-ce que vous avez je crois en Belgique des maisons qui sont réservées aux gens qui des maisons de shoot, hein, c'est ça?
Non, vous n'avez pas ça chez vous. Il y en a une mais elle a été fermée.
Ah d'accord,
parce
ok.
Parce que la consommation de drogue est illégale en Belgique, et donc ces salles de shoot, bah, quelque part, étaient totalement dans l'illégalité. Donc je ne pense pas qu'il en reste encore en Belgique.
Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une réponse, parce que ça pourrait faire en sorte de ne pas drainer ou de ne pas promener des drogues, je dirais, encore plus néfastes que celles que les gens prennent en général?
Alors ça dépend ce qu'on entend par salle de shoot. Est-ce que ça serait juste des endroits où les gens peuvent venir consommer en toute sécurité, ce qui serait déjà pas mal, puis ils seraient plus victimes de violence, ou bien on parlerait alors de salle de shoot où on fournit certains produits équivalents ou de substitution. Donc il y a plusieurs débats possibles. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la vie d'un toxicomane, elle est quelque chose déjà d'assez lourd. Mais en plus, les produits sont frelatés. Déjà, s'ils l'étaient pas, ça serait pas très bon pour la santé. Mais en plus, c'est des produits frelatés, donc ça les tue. Alors, si dans des salles de shoot, on pouvait trouver des produits de qualité, et je mets qualité entre guillemets, évidemment,
oui, bien sûr.
Ça mettrait au moins les consommateurs en sécurité, mais ça mettrait aussi la population en sécurité. Parce que l'objectif, ce serait quand même que les organisations criminelles n'aient plus le monopole de la production et de la distribution.
Parce que du coup, ce sont des gens qui se retrouvent à être battus, à être raquettés, qui vivent des moments quand même très, très compliqués, très difficiles dans leur vie, justement, parce qu'ils sont, toujours en manque, ils ont toujours ce besoin, ils n'ont jamais assez d'argent et que, pour le coup, ils se retrouvent vraiment dans une espèce de spirale infernale.
Oui, c'est la précarité exposée en mille, parce qu'elle n'est pas d'un jour à l'autre, elle est d'une minute à l'autre.
Qu'est-ce qui, par exemple, quand on a deux types de populations, hein, on a la population pauvre qui se retrouve dans cette situation, et on a aussi la population bourgeoise, riche, qui tombe aussi dans cet engrenage. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à ça? Est-ce qu'ils s'en sortent différemment ou est-ce que le chemin finalement est à peu près le même et aboutit aux mêmes conséquences?
Ben, l'aboutissement est le même parce que tous les toxicomanes sont pauvres. Peu importe le milieu d'où vous venez, quand vous êtes vraiment toxicomane, que vous êtes vraiment dépendant, vous êtes pauvre. Maintenant, il y a des dépendances à des différents produits. Donc, quand on parle de dépendance, on pense souvent à la cocaïne ou à l'héroïne. Bon, des gens vraiment dépendants à la cocaïne, il y en a relativement peu. Ça existe, mais il y en a peu. Et la dépendance n'est pas la même qu'avec l'héroïne. Mais les gens qui sont dépendants à l'héroïne ou qui sont multiconsommation, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici avec ironie des SDF, c'est-à-dire sans drogue fixe, oui, ils sont tous pauvres.
Ouais.
Ils sont tous pauvres. Quel que soit leur milieu d'origine, ils sont tous pauvres.
Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire déjà, pour la population lambda, ce serait intéressant de faire un espèce de tableau représentatif de la hiérarchie des drogues, si je puis me permettre.
Ça existe, on trouve ça partout, sur plein de sites, vous pouvez trouver c'est quoi telle drogue, qu'est-ce que ça produit comme effet, on en trouve partout. Donc
pour
ça, l'information n'est pas très difficile à trouver.
Pour vous, la pire, c'est quoi et la moins pire, si on peut.
L'héroïne.
L'héroïne, la pire?
Oui.
Pourquoi?
Tout en haut de la pile.
Pourquoi? Parce qu'elle, quelles sont les conséquences sur celle-ci?
Parce qu'elle vous démolit la santé, le cerveau et l'intégration sociale. Elle vous amène à devenir totalement monomaniaque, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule chose dans votre vie qui compte, une seule, rien d'autre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de boulot, il n'y a rien. Là, c'est ma seule maîtresse, je l'aime, je suis dépendant d'elle, c'est l'héroïne.
Et on est capable de tout pour en avoir.
De n'importe
Ah,
quoi.
ouais, c'est
Il
ce
n'y a que
que,
ça qui compte.
c'est ce qui est écrit dans votre livre, c'est ce qui est très très bien dépeint dans votre livre d'ailleurs.
Peu importe quelles étaient vos peaux sociales d'avant, quand vous étiez héroïnomane, elles ont été pelées jusqu'à la moelle.
Bon, on va faire une petite pause musicale sur Couleur FM, sur un sujet qui est quand même bien, bien lourd. On va écouter Cocaïne, écrit par Gigi Kell et plus généralement connu par la reprise qu'en a fait Eric Clapton, qui décrit la cocaïne comme une chanson, enfin le titre Cocaïne comme une chanson anti-drogue. On écoute Cocaïne. Alors, le problème, Philippe, est-il identique dans tout le monde? Je veux dire par là, est-ce que la mécanique rodée des dealers et de cette titanesque pieuvre qu'est le trafic de narcotiques est le même partout?
Non, c'est pas partout pareil. Dans le monde occidental, vous avez une consommation. Les gens arrivent dans leur consommation venant de différents horizons. Voilà, il y a des tas de raisons pour lesquelles les gens consomment. Vous avez d'autres pays qui ne sont pas des pays occidentaux où les gens tombent dans la dépendance et la consommation juste pour un jour de plus. Par exemple, en Thaïlande, la drogue numéro un, c'est le yaba. Ben, c'est une espèce de super amphétamine et les gens prennent ça pour tenir le coup au boulot.
D'accord.
Mais la dépendance est très très forte.
Donc en fait, de toute façon, la drogue, ça peut commencer simplement par les petits cachets qu'on prend pour dormir, qu'on prend et reprend pour se calmer, pour se déstresser, etc. Ce sont des addictions en fait.
C'est ça. Il y a pas de façon standard de commencer. La plupart des gens croient que les toxicomanes ont commencé parce qu'ils viennent de milieux misérables ou déjà leurs parents se droguaient et que c'est affreux et fais-moi pleurer Cosette. C'est parfois vrai. C'est parfois vrai, c'est même souvent vrai, mais des tas de gens tombent dans la consommation de façon différente. Il y en a qui commencent par des consommations de loisirs, le week-end, et puis qui tombent petit à petit.
Parce qu'ils sont là avec les copains et qu'il y en a un qui propose un joint ou un truc, et voilà, ça part comme ça.
Oui, enfin, de partir d'un joint, arriver à se planter une aiguille dans l'orteil, il y a du chemin.
Ça peut commencer comme ça.
Oui, ça sera le cas pour largement moins d'un pour cent de la population d'héroïnomanes.
D'accord, donc on commence comment en général à... Je dis ça pour alerter un petit peu pour que les parents puissent...
Ça peut commencer par des consommations de cannabis, mais c'est la plupart des gens qui vont consommer du cannabis ne prendront jamais autre chose. Mmh. Alors ça peut commencer par le cannabis quand il y a des gens qui commencent à trouver que les joints c'est un peu léger. Mmh. Ça peut être ça, mais ça va représenter largement moins d'un pour cent des gens qui consomment du cannabis. Donc les parents qui sont angoissés parce qu'ils apprennent que leur gosse a fumé un joint, faut un petit peu relativiser puisque l'immense majorité de ces jeunes ne touchera jamais à l'héroïne. Donc ça peut être aussi des gens qui prennent de l'exta ou des pilules ou de la coke le week-end, et les week-ends devenant de plus en plus longs, ils commencent à tomber dedans et commencent éventuellement à consommer aussi la semaine. Pas de l'exta mais de la cocaïne, oui c'est possible. Et donc c'est comme ça que des gens peuvent devenir largement dépendants de la cocaïne. Voilà, c'est vraiment les deux produits phares de la grosse dépendance.
Et donc à votre avis, quelles sont les raisons qui poussent quelqu'un à devenir dépendant de la drogue? Parce que moi, je sais pas, j'ai un petit peu de mal à m'imaginer. Et je suppose qu'on est nombreux à se poser la même question, surtout quand on n'a pas touché à ça. Comment est-ce qu'on peut ne pas se rendre compte que petit à petit on devient dépendant et que on suit un mauvais chemin?
Oh, c'est simple. Ça, par contre, on peut faire une généralité.
Ouais.
100% des gens qui commencent à consommer une substance sont convaincus qu'ils vont pouvoir la maîtriser.
C'est comme l'alcool. C'est comme
Vous n'êtes pas dépendant du jour au lendemain. C'est une légende. Ça n'existe pas. On fait croire à travers les médias et les campagnes de prévention, en tout cas certaines, que dès que vous touchez une substance, vous allez en être dépendant. Bien sûr que c'est faux. La dépendance, c'est un parcours. La seule façon de ne pas devenir dépendant, c'est de ne pas commencer. Mais une fois que vous avez commencé, il y a un parcours. Et le parcours, il peut être de plusieurs semaines, il peut être de plusieurs mois, il peut être de plusieurs années.
Mm-hmm.
C'est pas « bonjour, je suis toxicomane », ça n'arrive pas.
Non, c'est une escalade, on va dire.
Absolument, c'est toujours une escalade. Mm. Et c'est toujours une escalade que je pense que je vais pouvoir gérer et maîtriser. Et jusqu'à un certain point, c'est vrai.
Malgré tout ce qui est tout de même fait par les associations et les organismes d'État, hein, parce qu'on le voit quand même, nous, en tous les cas en France, j'imagine que c'est à peu près la même chose en Belgique aussi, y a un vrai travail qui est fait, et même s'il n'aboutit pas à la réussite qu'on pourrait espérer, il faut quand même redonner à ceux qui s'engagent dans cette bataille, en tous les cas, toute notre considération malgré tout cela. Qu'est-ce qui explique que cela touche toutes les tranches d'âge de la population et toutes les couches de la société? Est-ce que c'est quelque chose qui manque à quelqu'un à un instant T? Est-ce que c'est le fait d'avoir une société qui finalement est quand même très superficielle, on vit quand même dans un monde où on vous prend, on vous jette un peu comme des mouchoirs Kleenex, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan amical? Qu'est-ce qui explique?
Rien de tout ça. L'explication est beaucoup plus simple.
Ah.
Beaucoup plus simple.
Alors, voyez.
Et c'est une explication dont on ne parle pas, pourtant c'est la plus simple. L'explication, elle est plus simple, elle n'est pas philosophique, elle n'est pas si sociologique, c'est pas l'air du temps, c'est pas la triste société dans laquelle nous vivons. Non, simplement les jeunes qui commencent à consommer alcool, cannabis, extra ou autre, ils commencent à le faire non pas avec des méchants dealers, mais avec des gentils amis,
Ouais,
dans un cercle amical,
les super
avec
potes.
les super potes qui leur disent que c'est rien, que c'est super, allez, vas-y, voilà. Simplement, les jeunes sont encouragés à le faire et ils ont du mal à dire non parce qu'ils sont dans un milieu amical.
Alors, on
et
est
donc,
dans
ils
un
se sentent
club.
quand même poussés. Et en fait, on nous fait croire au quotidien que c'est les méchants dealers qui initient les jeunes à la drogue, alors que ça n'arrive tout simplement jamais.
D'accord, c'est juste dans le milieu où on est.
Oui,
Alors après, ça dépend peut-être un petit peu quand même, parce que quand même, on voit bien dans les cités, par exemple, c'est quand même tout un, comment dirais-je, tout un rituel qui se passe lorsqu'il y a ce phénomène de drogue. On voit déjà les enfants qui commencent de plus en plus jeunes, qui commencent par faire le guet, après les autres qui ont la quinzaine, qui vont aller récupérer les uns et les autres pour venir faire la file d'attente devant la voiture qui vient avec sa cam. Il y a quand même toute une espèce de micro-société qui est mise en place quand même, enfin, de ce que j'ai pu voir en tous les
Alors
cas.
déjà là vous parlez pas de la consommation, vous parlez pas de la consommation,
Non,
vous parlez de la
on parle
vente.
de la vente là, ouais.
Ça c'est un autre phénomène. Mais ce phénomène a un point commun avec la consommation, c'est la pression sociale. Donc dans l'endroit où vous êtes, qu'est-ce qui se fait en matière de drogue? Et donc vous avez fort tendance à suivre ce qui se fait dans votre milieu d'origine.
D'accord.
C'est tout, c'est juste la pression sociale. Se faire accepter, être avec les autres.
Et donc il y a
Alors, ce n'est
une
pas la seule façon de rentrer dans la consommation, mais c'est une des principales.
Et donc, il y a une micro-société qui se met en place, finalement,
Oui,
où chacun
oui.
gagne sa vie, où chacun devient le chef de l'autre, et où finalement on a une espèce de toute puissance quand même qui se crée.
C'est possible, mais ça, c'est le milieu de la distribution.
Ouais.
C'est vraiment pas un milieu que je connais.
D'accord.
Voilà, j'ai travaillé sur la consommation, mais sur la distribution, les cités, voilà, je vais pas faire l'expert.
D'accord, ok. Bon, bah, on va faire une petite pause musicale sur ça. Nous allons écouter maintenant sur Cooler FM 97.1 Day Tripper des Beatles, qui a été écrit en 1965. Et c'est ce morceau dispose de plusieurs niveaux de lecture. Lennon lui-même a reconnu qu'il parlait de la dope dans cette chanson. Donc écoutons Day Tripper des Beatles sur Cooler FM 97.1.
Taking me easily out.
Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans Tout Feu Tout Flamme et Tout Feu Tout Femme. Ça brûle aujourd'hui. Nous sommes avec Philippe Dilewski qui a écrit un livre qui s'appelle 24 heures héros aux éditions Fièvre Jaune. Philippe, on reprend notre conversation donc sur le sujet de la drogue. Est-ce qu'il y a une vraie volonté politique? Sinon, pourquoi?
Je suppose qu'il y a une vraie volonté politique parce que c'est quand même un problème qui est lourd et surtout qui coûte cher. Si ça coûte cher, c'est un vrai problème. Donc oui, il y a une volonté politique. Maintenant, est-ce que les actions qui sont entreprises sur le terrain apportent leur lot de succès? Clairement non, parce que pour le moment, les politiques sont fort orientées vers des axes de répression. Je n'ai aucun problème avec la répression, il semble simplement que ça ne marche pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui marche.
Quel type de répression vous avez en Belgique, vous, par rapport à ça?
La même chose qu'en France, c'est-à-dire les tribunaux, la prison, voilà, tout ce qui est du registre de la punition, de pourchasser les dealers, même les consommateurs aussi, d'ailleurs. Et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne même pas un petit peu, ça ne fonctionne pas du tout.
Pas du tout. Qu'est-ce que les politiques pourraient mettre en place? Est-ce qu'il s'agit d'une question... Non, vous venez de dire, ce n'est pas une question d'argent, puisque de toute façon, on est dans la répression, et que la répression, de toute façon, ça coûte cher aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement, vous qui avez été sur le terrain avec Saphir, vous avez peut-être vu ou eu des idées sur ce qui pourrait éventuellement marcher?
Alors si Saphir ou moi, on avait eu l'idée miracle pour stopper la toxicomanie, ça se saurait. Donc la réponse est non, on n'a pas une idée miracle. Mais on peut identifier ce qui est fait et qui ne marche pas. Donc la répression, et ce n'est pas un problème philosophique, hein, je n'ai pas de problème avec la répression, simplement ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qui est embêtant? Ce sont les réseaux criminels qui ont le monopole de la fabrication et de la distribution. Alors, je ne sais pas si on légalisait la consommation de drogue dans toute l'Europe, parce qu'il faut que ça soit à l'échelon européen, si ça solutionnerait le problème de la toxicomanie, mais une chose est sûre, c'est que ça détruirait les réseaux mafieux en 24 heures. Si on pouvait trouver sa consommation de drogue dans des endroits légaux et protégés, non seulement il n'y aurait plus de criminalité liée à la drogue, mais vous pourriez contrôler les consommateurs, les protéger et les accompagner.
Cette fameuse dépénalisation dont on parle tant en France depuis quelque temps.
Ce dont on parle à peine en France, c'est de la dépénalisation du cannabis. On n'en est pas encore à parler de la dépénalisation de toutes les consommations.
Est-ce que les sociétés ont un intérêt à laisser ce problème grandir?
Non. Je vois pas qui est gagnant, en tout cas dans les civilisations et les sociétés légales.
D'accord.
Donc non. Parce que ça coûte de l'argent au pouvoir public, parce que la répression, ça coûte très très cher. Mmh. Les soins de santé, ça coûte très très cher. Et il n'y a rien qui rentre dans les caisses de l'État. Donc, non, non. À part les organisations criminelles elles-mêmes.
Il y a bien quand même quelque chose qui peut, mettre à mal ces... on doit bien connaître les tenants et les aboutissants de ces réseaux mafieux. Donc moi, c'est un petit peu toujours ce qui me pose problème avec ça. C'est de me dire, je ne peux pas imaginer qu'une société, que ces politiques ne savent pas où commence et où finit le chemin, le transit de ces drogues.
J'ai du mal à... Je ne sais pas. Je suis quelqu'un de pas compliqué, je pars du principe que si c'était si simple, ce serait fait.
Peut-être qu'il y a un intérêt quelque part, non?
Je vois pas lequel, parce que quel est l'intérêt de laisser la passion de drogue et la toxicomanie se développer sur nos territoires? Je vois pas les avantages, ça permet pas de contrôler la population, ça permet pas de gagner de l'argent, rien, il n'y a pas vraiment d'avantage.
Vous me disiez, sauf erreur de ma part, vous m'aviez dit dans une autre conversation que, hors antenne, qu'un pays seul ne pouvait pas mettre en place certaines actions comme la légalisation de la drogue par peur de voir très vite arriver tous les addicts de la planète sur son sol, déjà et d'une.
Oui.
Et donc, si l'Europe entière prenait le sujet à bras le corps, est-ce que vous pensez qu'on pourrait en tirer des leçons et mettre en place les choses adéquates, significatives qui pourraient diminuer la consommation de drogue? Parce que bon, on parle de diminution, on peut pas parler on ne peut pas y échapper complètement, je pense, de toute façon. Mais...
Si au niveau de grands pays, de toute l'Europe, un jour on dépénalise la consommation de drogue, en 24 heures, vous détruisez les réseaux mafieux. Ils cessent d'exister. C'est pas pendant, ça prendra pas des années, ça prendra pas des mois, ça prendra 24 heures.
Pourquoi ? Parce qu'on leur coupe les vivres ? Parce que, pourquoi ? Expliquez-nous un petit peu.
Exactement. Si l'État ou le monde légal reprenait le monopole de la distribution, on pourrait contrôler toute la consommation. Parce qu'on ne peut pas l'arrêter, on peut juste essayer de la contrôler.
D'accord, donc ça c'est un point déjà qui est clair. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut la contrôler. Et le contrôle fait qu'on a moins de, entre guillemets, de mauvaises drogues sur le marché et qu'en plus on incite plus du coup les gens à, pour certains, en faire un espèce de business.
Tout à fait. Et il n'y a pas que ça. C'est que si c'est illégal, ben vous ne pouvez pas identifier les consommateurs puisqu'ils commettent des délits. Si ce n'est plus un délit, ils seront identifiés et on pourra plus facilement les encadrer.
Ça paraît quand même finalement peut-être quand même une solution.
Ah oui, ça pourrait. Oui, ça pourrait.
Je pose des questions bêtes.
En tout cas, c'est ce qui a été fait avec l'alcool aux États-Unis. Et ben voilà, le résultat, on l'a vu. Les réseaux criminels ont dû s'adapter, certains ont disparu, ouais. Mais en tout cas, les consommateurs ne sont plus morts en buvant un mauvais whisky, ils ne sont plus devenus aveugles. Ça a disparu en un jour.
Ça a disparu, alors oui, mais par contre, l'alcoolisme n'a peut-être pas forcément disparu.
Non, l'alcoolisme n'a pas disparu, mais à partir du moment où ce n'est pas un crime ni un délit, vous pouvez l'encadrer,
ouais.
Vous pouvez le gérer.
Donc prendre les
Déjà,
gens en charge.
Déjà, vous pouvez gérer le produit. Déjà, vous pouvez gérer les produits. Ça veut dire que les gens qui vont s'acheter une bouteille de whisky aux États-Unis, ils achètent une bonne bouteille de whisky.
Ils enfin, j'aime pas ça, plus mais... la santé voilà. Avec du truc frelaté.
C'est ça.
Ouais.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà bien.
C'est un début. Et aussi, la population qui n'est ni consommateur ni dealer bah, vit en sécurité par rapport à l'alcool. Mmh. On ne se tue plus pour avoir une caisse de whisky. Donc, il n'y a pas des citoyens qui, dans la rue, prennent des balles perdues parce que quelqu'un a essayé de voler une cargaison de whisky. Bah, la majorité de la population n'est ni consommateur de drogue, ni n'en fait le commerce. Pourtant, les citoyens dans nos rues sont victimes collatérales de la toxicomanie. Soit parce qu'ils se font agresser, soit parce que de temps en temps, ils prennent une balle perdue. C'est quelque chose qui pourrait s'arrêter.
Moi, ça me laisse songeuse quand même quand on dit ça, parce que ça veut dire quand même qu'il y a quand même des... Il y a quand même des solutions à tenter, quoi.
En tout cas, celles qui ont été tentées depuis maintenant 30 ou 40 ans n'ont pas marché. Donc les solutions depuis 30 ou 40 ans, elles sont essentiellement basées sur la traque et la répression. Elles ne fonctionnent pas. Elles ne diminuent pas le nombre de distributeurs ni de fabricants et elles ne diminuent pas, ça c'est le moins qu'on puisse dire, le nombre de consommateurs.
Il est en constante augmentation ?
Je ne sais pas. Je pense que pour certains produits, oui, l'héroïne était en chute dans les années 90. Et miracle, j'ai réussi à ne pas dire 90.
ça aurait été joli, ça donnait un petit air de Belgique, c'était mignon. Permettez-vous
bon
le aller.
Bonjour de Belgique, hein. Voilà. Mais oui, en France et aux États-Unis, j'ai vu des chiffres, oui, augmentation de la consommation d'héroïne. Et en France, plus particulièrement, campagne et petite ville.
D'accord, oui, en campagne, c'est assez impressionnant d'ailleurs de voir...
Mais aux États-Unis et au Canada, oui, c'est en augmentation.
On va faire une petite pause musicale sur Couleur FM 97.1. Vous êtes dans Tout Feu, Tout Femme et nous allons écouter Rocketman d'Elton John qui a été écrit en 1972. Alors ces paroles, elles décrivent les sentiments d'un astronaute qui part en mission dans l'espace, loin de sa famille. Elles s'inspirent d'une nouvelle de Ray Bradbury intitulée L'homme de l'espace. C'est un morceau qui en fait est une métaphore traitant de la vie d'artiste, de la célébrité et des habituels excès et désillusions qui les accompagne. Rocketman d'Elton John.
She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket.
Dans Tout Feu Tout Femme sur Couleur FM 97.1. Donc nous reprenons avec Philippe Dilewski concernant le livre qu'il a écrit 24 heures héros. Dans votre livre, Philippe, on parle essentiellement d'héroïne et d'alcool, mais on est conscient, vous et moi, que la drogue, qui est une addiction, n'est finalement pas l'unique problème. D'ailleurs, à une époque, moi je me souviens, les jeunes allaient se servir en pharmacie avec un certain médicament, dont je tairai le nom, qui était facilement délivré, et à ce moment-là, on retrouvait jonchés sur le sol des centaines de boîtes vides, indicateur de la prise de ce médicament comme un produit addictif et qui forcément les entraînait dans autre chose par la suite. Donc la drogue, ça commence aussi par l'habitude de prendre des médicaments systématiquement, par consommer un produit de façon répétée jusqu'à ce que l'on ne puisse s'en défaire. La drogue, c'est aussi synonyme d'addiction, et les addictions peuvent être de tout genre. Donc en fait, ne serait-ce pas un combat contre les multi-addictions qu'il faudrait livrer ?
Alors, une journée d'un consommateur, c'est pas une consommation, c'est de la multiconsommation. Je vais commencer par m'envoyer un peu d'héroïne le matin pour me écraser, et puis je vais boire de l'alcool, tout ce que je trouve. Quand je vais aller mendier, j'aurai besoin de courage et de force, donc je vais prendre un peu de cocaïne. Et voilà, c'est toute la journée comme ça. Il y a des différentes drogues selon les situations, selon les moments de la journée. Mais la plupart des consommateurs, à un moment, deviennent multiconsommateurs. Tout comme les alcooliques qui, au départ, ils ont leur poison préféré.
Ouais.
Mais très rapidement, au bout d'un certain temps, ils boivent tout ce qu'ils trouvent.
Mais dans votre livre, vous expliquez bien d'ailleurs que à ce à quoi amène aussi cette consommation de drogue, c'est-à-dire qu'elle amène aussi à la prostitution, elle amène aussi à la mendicité. C'est une chose, la mendicité, c'est pas trop gênant, mais la prostitution, oui, parce que ça fait mettre très souvent ces gens en très grand danger.
Donc déjà la vie d'un toxicomane, c'est pas l'éclat total. Mais c'est Noël en été par rapport à la vie d'une toxicomane.
c'est encore plus dur d'être toxicomane. Et la tendance ces dernières années, c'est d'avoir de plus en plus de filles et des consommateurs de plus en plus jeunes.
Ça commence à partir de quel âge ?
C'est difficile à dire quand est-ce qu'on va dire que vous êtes toxicomane, mais les débuts de consommation, ça va démarrer à 13-14 ans.
Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents pour qu'ils soient attentifs à ce qui se passe autour et essayer de juguler ce genre de problème ? Est-ce qu'il y a des conseils à leur donner ?
Oui, restez calme.
Les parents, quand ils finissent par découvrir que leur gosse il fume des joints, bah, les engueuler, c'est la meilleure façon de couper le contact avec le môme.
Ouais,
vous perdez le contact. Et donc, soit vous les engueulez, soit vous les punissez, vous les empêchez de sortir, bah, vous venez de rompre le contact, donc vous allez perdre le contact avec la consommation du jeune. Donc c'est dur de rester calme, c'est dur de se mettre à l'écoute, c'est dur de poser des questions, d'essayer de comprendre, parce que souvent il n'y a pas grand-chose à comprendre. Il y a des gens qui commencent à consommer parce qu'il y a des drames dans leur vie. Il y en a qui commencent à consommer parce que c'est des antidouleurs. Voilà, il y a des gens qui souffrent physiquement et qui ont commencé à prendre de l'héroïne comme antidouleur. Donc il y a pas de raison de mon Dieu, je suis misérable, ma vie ne vaut rien, je suis très malheureux. Non, c'est comme ça.
Le dialogue, encore le dialogue, toujours le dialogue.
Mais je parle même pas du dialogue, je commencerai déjà par l'écoute. Avoir un dialogue avec un jeune, c'est pas lui faire la morale. Ça, c'est pas un dialogue.
Ah, ça c'est clair. Ça, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place aussi dans les écoles, ou les écoles, c'est pas du tout le lieu où on peut expliquer ça ?
Si, on peut l'expliquer, mais il faut arrêter d'expliquer. Tout le monde a compris que la drogue, c'est mauvais.
Ouais.
Donc, commencer à passer des films sur la drogue, faire venir des toxicomanes qui racontent leur expérience, c'est bien gentil, c'est informatif, mais ça ne modifie pas les comportements. Donc, ce qui fonctionne comme animation en prévention drogue, c'est quand on pose des questions au groupe de participants. On leur demande s'ils connaissent comme drogue, s'ils connaissent des gens qui consomment. Tiens, qu'est-ce que vous ferez le jour où on vous en proposera, dans le but d'obtenir des engagements publics de la part du groupe, de dire que la prochaine fois qu'on m'en proposera, j'aurai le courage de dire non. Et ces animations ont de bons résultats.
Une vraie discussion, en fait.
Non, c'est pas une vraie discussion, c'est une animation et l'animateur est juste là pour poser des questions, recueillir les réponses, avec un objectif, c'est que le groupe, l'ensemble du groupe, librement et sans contrainte, s'engage à la fin à faire un truc qui est difficile. C'est le jour où, au milieu d'un groupe d'amis, on me proposera d'essayer une substance, j'aurai le courage de dire non merci.
Eh ben, j'espère que là, on a fait un bon chemin sur tout ce sujet. Parlez-nous un petit peu de... Ouais, mais c'est sûr. Parlez-nous un petit peu de votre livre, Philippe, quand même, hein, avant de conclure cette émission. Racontez-nous un petit peu.
D'abord, c'était une grande aventure avec un ami. Donc, c'est chouette de travailler avec un ami, surtout quand ça marche bien. C'est un roman. Donc, en ce qui me concerne, c'était une première. Les autres bouquins que j'avais écrits, c'est pas des romans. C'est être au contact d'une réalité époustouflante, incroyable. En fait, c'est arrivé près de chez vous, mais cette fois, c'est vrai.
Philippe, vous avez tout dit. Alors,
ouais, c'est ça, ça résume tout.
En conclusion, quel message voulez-vous faire passer en premier, d'abord aux personnes qui ont basculé dans cette addiction, et puis en second lieu à ceux qui...
Survie un jour de plus. Non, en second, c'est au pouvoir public. C'est un message positif. Quand on utilise des stratégies qui marchent pas, ça nous arrive à tous, donc c'est pas grave. Ce qui est embêtant, c'est quand j'utilise des stratégies qui marchent pas et que je continue à utiliser les mêmes. Donc, qu'est-ce que j'enverrai comme message au pouvoir public ? Essayez autre chose.
Merci Philippe, en tous les cas, d'avoir passé ce moment avec nous sur Couleur FM.
C'est un grand plaisir. Merci Valérie.
Merci à vous. Et puis, en tous les cas, on garde la patate, hein, tous. Et puis, on reste positif. Et donc, on rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent se procurer sur Internet votre livre, notamment sur www.fièvrejaune.be pour Belgique. Peut-être à bientôt sur un autre livre, qui sait.
Ah, peut-être une suite, oui.
Ah. Merci beaucoup Philippe, à très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir et bonjour, bonjour à toute la Belgique.
Je fais ça tout de suite.
Merci.
Je vais ouvrir la fenêtre.
Au revoir.
Au revoir. Voilà.
Nous allons terminer avec Florent Pagny, la chanson N'importe quoi qu'il a écrit en 1987. Elle était décidément, c'était une année riche en matière de lutte contre la drogue à ce moment-là en France. Et en enregistrant N'importe quoi, Florent Pagny se plaçait ainsi dans la continuité de France Cartini, qui avait chanté à l'époque Dealer Merde Dealer, et Serge Gainsbourg, qui avait chanté aussi Aux enfants de la chance. Et cette chanson s'est affichée au top 50 plusieurs mois d'affilée en 88. Voilà, nous écoutons et nous terminons notre émission dans Tout Feu Tout Femme que nous avons passé avec nos amis belges pour le sujet sur la drogue. Écoutons Florent Pagny maintenant, N'importe quoi. Au revoir, à bientôt sur Couleur FM 97.1.
Tu veux pas? Dis-moi, pourquoi tu souris? Et pourquoi tu pleures? Pourquoi t'as envie? Et pourquoi t'as peur? Dis-moi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi t'y crois pas? Pourquoi t'y crois plus? Pourquoi tu sais plus?
Femmes, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile.